sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, Mathilde Serrel, Pascaline Podevin, Olivier Lam, pour parler ensemble de chocolat. On a enfin une dispute gastronomique. Ça y est, c'est parti, depuis le temps que vous l'attendiez. C'est maintenant. Ah non, on parle du disque de Romeo Elvis chez Barclay. Father of the Bride, un excellent film avec Steve Martin, et c'est aussi un album de Vampire Weekend chez Columbia. On parlera de l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie de Paris. Et puis il y aura un coup de cœur d'Olivier Lam pour une anthologie du label Fashion Records qui s'appelle Style and Fashion. Nous ouvrons donc cette dispute avec Chocolat de Romeo Elvis, l'omniprésent rappeur belge avec son véritable premier album, après plusieurs EP, dont un moral qui est ressorti en version très augmentée. Là, c'est donc premier vrai album, alors sans sa sœur Angèle, sans son comparse L'Homme Pâle, un album à la première personne, avec visiblement beaucoup de choses à dire, puisqu'il a quand même 19 morceaux pour une durée totale d'1h08. Ce qui fait quand même beaucoup. Un résumé de votre sentiment sur ce disque avant de développer tout à l'heure, Pascaline Potvin.
Moi, je trouve que c'est un disque qui part dans tous les sens, un peu pour finalement dire un peu souvent la même chose. Je trouve plus intéressant quand il parle d'autre chose que de lui-même.
Olivier Lam.
La pochette est bien.
D'accord, CRL, vous le décrirez à la pochette tout à l'heure, Olivier, on en reparlera.
Des ravages de la bonne réputation.
Oui, on écoute l'un des 19 titres de l'album, le morceau 3 étoiles.
Je suis sur terre. Je suis sur terre. Pourquoi tu veux un...
Le monde est devenu fou et les étoiles ne devraient pas être sur terre.
3 étoiles.
Le monde est devenu fou et les étoiles ne devraient pas être sur terre.
4 étoiles.
Le monde est devenu fou et les étoiles ne devraient pas être sur terre.
Oh, 5 étoiles.
Le monde est devenu fou et les étoiles ne devraient pas être sur terre.
6 étoiles.
Le monde est devenu fou et les étoiles ne devraient pas être sur terre.
7 étoiles.
Le monde est devenu fou et les étoiles ne devraient pas être sur terre. Pourquoi tu veux mettre des étoiles? Est-ce que t'auras assez? Est-ce que t'auras assez?
Mange encore mon salon.
Tu peux encore te resservir? Est-ce que t'aimes le service?
Y'a du rap, les gars.
Et combien tu mets d'étoiles? Combien tu mets d'étoiles?
S'il vous plaît, le maximum, hein.
Je me mets à vendre d'étoiles, ouais, la peinture vient d'étoiles.
Oji, popo, droga, Oli. Refrain, débit, pour mes gogoles.
J'ai pas de personnalité.
Combien tu codes l'album sur 10? C'est déjà un classique, j'ai dit. Oji, popo, droga, Oli.
Je suis sur terre. Pourquoi tu veux mettre des étoiles? Je suis sur terre. Pourquoi tu veux mettre des étoiles? Je suis sur terre.
City. Ouais. Même des gaines qu'un noir même Zizi
ouais.
Je suis platinium ça fait Zizi
ouais.
J'en ai besoin de plus pour mec City
ouais.
La valeur
ouais.
des choses
ouais.
m'étonne je suis encore réel
ouais.
Un million sur Instagram c'est même pas des
Tu veux mettre des étoiles.
serai le meilleur, je serai le meilleur. Et j'ai appliqué ça à toute mon équipe, et puis pendant 20 ans, on a vu ça, j'avais qu'un objectif au bout, 3 étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à la hache, parcours, dégage de là, tire-toi de là, 3 étoiles Michelin. Et j'ai eu 3 étoiles Michelin, c'est tout.
3 étoiles, l'un des 19 morceaux de Chocolat, l'album de Romeo Elvis. Alors, peut-être quand même pour commencer, parce que dans cette dispute, on en voit passer des premiers disques. Pascaline Potvin, qu'est-ce qui distingue Romeo Elvis dans le paysage qui est quand même très saturé?
Bah déjà, c'est le frère d'Angèle.
D'accord.
Voilà. Non, mais c'est vrai, ça change pour une fois que ce soit... D'habitude, c'est plutôt c'est la petite sœur, c'est la fille qui vient après.
Quand Angèle est sortie, c'est la sœur de Romeo Elvis.
Oui, hein. Voilà, exactement. Et ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, Angèle est devenue tellement la star chanson française, francophone, du moment qu'on peut dire aujourd'hui que Romeo Elvis est le grand frère d'Angèle. Ce qui le distingue... Alors, c'est vrai qu'on... C'est quelqu'un qui s'inscrit dans la variété rap, le rap qui devient la nouvelle variété, qui s'illustre aussi chez nous en France par L'Homme Pâle ou Orelsan, parce qu'il faut rappeler que, comme Angèle, Romeo Elvis est donc belge. La différence qu'on pourrait trouver par rapport à Orelsan et L'Homme Pâle, qui font partie de ses amis d'ailleurs, ils ont déjà fait des chansons ensemble, ils interviennent les uns dans les clips des autres. Romeo Elvis, lui aussi, parle beaucoup, lui, comme L'Homme Pâle. C'est partie de cette veine très nombriliste. Orelsan est là-dedans aussi. Mais là où L'Homme Pâle est très, très déprimé, un peu lancinant et un peu plus pop, Romeo Elvis est aussi, ne va pas très, très bien quand on écoute ses paroles. Mais il y a un côté plus dur, voilà, musicalement. Par rapport à Orelsan, je dirais, il y a moins d'humour que chez Orelsan. Moins de punchline aussi.
Ah, beaucoup moins.
Voilà, beaucoup moins d'efficacité. Donc... Voilà ce qu'il distingue. Mais on reste quand même dans cette veine de rap qui va vers la variété. Je pense que les featuring aussi vont dans ce sens. Le fait qu'il y a un featuring de M sur une des chansons illustre totalement le fait que voilà, on veut s'adresser à autre chose qu'un public qui n'aime que le rap et qui ne s'intéresse qu'à ça. Et de rap donc très nombriliste, très introspectif, où ça parle de mes angoisses par rapport au succès, par rapport à l'amour, par rapport à l'avenir. Voilà, jusqu'à ce que ça tourne un petit peu en rond autour de son nombril, des fois.
Ça soupire un petit peu. Olivier Lame, vous parlez de cette pochette, description ?
C'est lui avec les yeux un peu révulsés. C'est le genre de photos généralement qu'on prend entre deux. Enfin, quand on prend des photos en rafale, c'est celle qu'on jette tout de suite à la poubelle.
Sur fond jaune.
Sur fond jaune, avec un côté un peu pop. C'est un peu, elle répond à la pochette,
d'Angèle,
ouais, de Brol. Avec le même, exactement la même dissonance, dans le sens où ce qui est annoncé, c'est quelque chose de très marrant, très enlevé, très décalé, etc. Alors que derrière, on a quelque chose d'assez sérieux, donneur de leçons. C'est presque du rap conscient, en fait. C'est ça qui est étonnant. Non, mais c'est vrai, avec un côté très donneur de leçons sur l'époque, les réseaux sociaux, etc. Moi, c'est principalement ça que je lui reprochais, c'est que c'est un disque qui est... pas du tout léger, en fait. Et malgré le côté très sautillant de ses instrumentaux, etc., on peut parler rapidement de la musique, qui est pas mal, hein. Pour le coup, il y a un choix, il va pas chercher des producteurs à la mode, il a sa bande, les gens du Motel, Vladimir Cauchemar, qui sont des bruxellois comme lui. Là, pour le coup, il y a une continuité, il y a vraiment un projet, je pense, esthétique, on va dire, auquel on peut adhérer ou pas, selon les morceaux. Par contre, vraiment, le reste est vraiment... Moi, j'ai l'impression d'un truc monté en épingle à partir de rien. C'est-à-dire que il y a un côté très, une intensité un peu permanente, alors que ça raconte des choses assez puériles et assez que je disais moralisatrice tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a deux jours je regardais un mauvais film sur Netflix adapté de The Dirt, à la fameuse biographie, enfin autobiographie des membres de Mötley Crüe, dans lequel on les voit faire toutes les choses terriblement incorrect qu'ils ont fait tout au long de leur carrière, avec la drogue, les conneries, etc. J'ai compris jusqu'à récemment, alors que c'est des vieilles personnes, hein, les gens de Mötley Crüe. J'écoute un morceau comme 194, ou je sais pas comment on dit, 1m94.
La taille de Romeo
Elvis. C'est sa taille, il est très grand. Je cite, les jeunes prennent plus de drogue, j'ai arrêté il y a 3 ans, c'était juste une erreur d'ado. Et ça, c'est une lueur d'espoir. Alors, entendre ça dans un premier album de rappeur qui est censé être déglingué, déglingos, je sais pas comment on dit, voilà. Il y a un truc, il boit pas, il fume plus, il parle de valeur travail. Et voilà, il y a un côté, on s'attend à un truc très drôle, très enlevé, très finaud, et on a un truc assez triste, et un mec surtout qui se plaint tout le temps, de tout. Et il a l'air vraiment... alors, il a le droit de chanter son spleen, mais c'est pas non plus tout à fait du spleen, c'est juste quelqu'un qui se plaint, et d'une manière assez puérile. Donc, c'est un disque qui est assez... désagréable parce que je pense qu'il a envie dans une transparence. Et du coup, c'est un type, moi, qui m'est assez antipathique.
Mathilde Sérène.
Je pense qu'on, là, on a bien fait le tour de la question. On va peut-être résumer, tout simplement. Il est très raté dans
l'émotion de synthèse. Mais oui, par
il est très
Sérène,
raté
là.
Dans l'entre-deux. C'est ni un bon disque de variété. Moi, j'ai rien contre un bon disque de variété. C'est totalement raté de ce côté-là, y compris justement ce featuring avec M. À part, en effet, la qualité des producteurs qui l'entourent et ce travail un peu de faux documentaires, de faux journaux qui ont été insérés. Donc, oui, il y a un effort sur la production, mais les chansons de variété ou même comme Malade par exemple sont extrêmement ratées et c'est pas non plus un bon disque de rap parce qu'en effet que ce soit sur les Go Trip, que ce soit même sur du rap conscient, même l'Afrique colonisée par la Belgique, c'est vrai que chez les Belges on dit toujours ça nous rendra pas le Congo par exemple. C'est vrai que c'est une expression terrible qui est toujours présente en Belgique. Il est temps un peu que la Belgique réfléchisse à cela, mais c'est dit de manière oh là là, il y a 15 tonnes par chaussure quoi. Donc c'est raté pour le rap conscient, c'est raté pour le rap ego trip, c'est raté pour la variété. Et de la même manière, c'est raté aussi pour la tranche d'âge. Ça, moi, j'ai l'impression que ça va très bien, peut-être une vieille personne qui n'aurait pas vu un jeune depuis longtemps et qui pourrait penser, tiens, que ça ressemble éventuellement à ça, qu'il y aurait une vague idée de ces soirées, de ce que la drogue a pu être comme expérience douloureuse. C'est vrai qu'il y a aussi des morceaux assez tristes où il va raconter les décès, par exemple, de ses amis. On a tous peut-être connu ça, des gens foudroyés comme ça qui passent dans notre adolescence ou dans notre première jeunesse. Et finalement, donc peut-être que ça informe, comme ça, quelqu'un qui n'aurait pas vu une jeune personne depuis longtemps, de ce que ça peut être. Mais à mon avis, quelqu'un de jeune ne va pas s'y reconnaître et dans l'entre-deux, c'est-à-dire comme nous, pas tellement.
Donc, j'interromps Mathilde pour vous dire que ma plus jeune fille, qui a 15 ans, me dit « Ah mais Roméo Elvis, on n'écoute que ça !»
Alors c'est peut-être justement ça, l'entre-deux. Soit vous êtes très jeune, soit vous n'en avez pas vu depuis longtemps.
Alors bon, très jeune.
Et comme je suis dans aucun des deux cas, alors pour les très jeunes, ce qu'on pourrait y trouver éventuellement, effectivement, moi j'ai déjà dit sur les idées innovantes dans la production, et malgré tout, même si elle est un petit peu préchi-précha, cette réflexion sur l'industrie musicale aujourd'hui,
il n'y a pas de réflexion, il dit juste ce qu'il doit faire, pour ce qu'il est obligé de faire et ce qu'il accepte de faire. Il l'annonce en début de disque, tout en s'en plaignant.
Tout en disant à la fin, qu'est-ce qu'on fera au prochain Donc c'est vrai qu'en même temps, il est en panne d'inspiration.
Pour le coup, alors c'est peut-être de la transparence, mais je trouve ça quand même quelqu'un qui révèle ce que lui a demandé, ce que son manager lui a demandé de faire, et qui ensuite le fait dans le disque. Je trouve ça d'un
cynisme.
Je pense même pas que c'est du cynisme. Je pense que c'est une sorte de il m'écarte sur table en fait, et je pense que ça vient d'une espèce de volonté de transparence, de sincérité absolue. Parce
mais
que
ça,
par ailleurs,
c'est
le disque
sympathique, ça, pour le coup.
C'est pas poétique, et surtout il y a aucune mise en perspective, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'impensée terrible, c'est-à-dire que tout est livré tel quel, y compris alors avec ses contradictions, pourquoi pas, mais c'est-à-dire que il en fait rien, il est parasité par son parasitisme, j'ai envie de dire.
Oui, mais
alors si vous avez envie de le dire, je vous le dis souvent, dites-le. On n'a pas du tout entendu l'avis vraiment de Pascaline Baudouin qui nous a brossé le portrait, mais votre avis à vous sur ce
disque.
Plein
d'avis me viennent parce qu'on entend ce que mes deux camarades disent. En fait, sur le fait effectivement cette manie de parler dans plusieurs chansons de l'industrie du disque, moi c'est vrai que ça me déroute parce que je trouve ça une absence de poésie. J'ai l'impression de lire un papier économique sur la filière musicale et ça me déroute, surtout c'est dans le premier morceau du disque. Après, j'essaie de comprendre, de sentir pourquoi il dit ça. Et je pense qu'effectivement, c'est un grand angoissé. Il passe quand même 18 chansons à nous le dire. Et je pense que c'est cette angoisse qui est existentielle et qui est sincère. Elle me touche quelque part, moi, même s'il ne la dit pas toujours bien. Je pense qu'elle a contaminé le disque. En fait, je crois que c'est un disque, tout simplement, il y avait beaucoup de pression au moment de faire ce disque. L'album précédent qu'il avait fait avec le Motel, donc son producteur, avait quand même beaucoup marché, comme on l'a dit. C'était avant Roméo Elvis, c'était avant Angèle, c'était le grand frère d'Angèle et tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'est un peu raté parce qu'il s'est mis de la pression. Beaucoup trop de pression. Et il essaye.
On lui a mis peut-être aussi.
Tout le disque est plein d'exhortes comme ça, faites envers le public, envers l'auditeur, comme un appel à l'indulgence, ce truc de transparence. C'est peut-être pour ça. Je vous explique ce que je fais, parce que parfois je suis pas trop sûre, en fait. Ouais. Là où je le trouve un peu plus intéressant, c'est quand il parle d'autre chose que de lui-même, justement. Ce dont on parlait, la chanson sur l'Afrique, moi je la trouve plutôt intéressante. Et
il parle surtout de son grand-père.
Il parle surtout de son grand-père, mais,
ouais, mais au
il
moins,
parle de son grand-père pour parler
il
d'autre
chose. Il dit quelque chose.
Il était au service de la Belgique.
Voilà, il y a une chanson, donc celle qu'on a entendue, 3 étoiles, sur cette manie qu'on a tous de se noter. C'est peut-être un lieu commun aujourd'hui, mais bon, moi je trouve pourquoi pas. Moi je trouve ça plutôt bien d'en parler. Il y a une chanson aussi sur la montée du racisme sur les réseaux sociaux, cette espèce de libération de la parole complètement atroce. Je trouve qu'il est plutôt bon quand il fait ça. Moi, les rappeurs variétés, on les entend pas tant que ça sur ces sujets-là. Et du coup, je pense qu'il a une voix à creuser là-dedans. Peut-être que là, on a envie de lui dire, bon, t'étais un peu perdu, un peu trop de pression. Creuse cette veine-là, en fait, on a envie de t'entendre là-dessus.
On a envie d'entendre Mathilde Serrel.
Mais moi, je pense que on citait Aurel San et cette
on en est loin.
Cette éventuelle frange comme ça, un petit peu variété du rap. Aurel San, il se met en abîme parfois justement.
Ah, et puis il dit des choses sur l'époque.
Dans justement, par exemple, la pression. Je me souviens de ce rajout qu'il avait fait à son disque. Il était quand même en train de le finir. Il nous racontait dans le disque qu'il était allé plus que 3. Je suis en train de le terminer. Ce qu'on voit très bien dans l'album de Chocolat, c'est que justement, il est totalement, je veux dire, inoffensif et pâle, à côté de ce que propose l'homme pâle et Aurel San. Et c'est ça, je trouve, qui est assez terrible, c'est que il tient très mal la comparaison, et parce que eux peuvent aussi parler de l'industrie du disque, eux peuvent aussi aller sur des thématiques d'enfance, d'histoire de famille, c'est-à-dire que toutes ces embardées-là, il les fait aussi, finalement, c'est des chemins dans lesquels il s'aventure, et il tient pas la comparaison. Et c'est ça, je trouve, qui paye très cher. Après, les 3 étoiles, moi, dans le système de notation de la musique, ça m'a un petit peu fait réfléchir. J'ai bien aimé cette idée de pas surnoter les choses.
Dernier mot, Olivier Lame.
Je pense que c'est un problème d'écriture, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'univers. Il a une voix, il a une belle voix, il a un grand voix, mais il n'a pas de style de rappeur, moi, je trouve.
Bon, c'est vrai.
Il limite pas énormément, mais enfin, on retrouve quand même beaucoup de gimmicks.
Il n'a pas un flow exceptionnel.
Il n'a pas un flow dingue parce qu'il n'écrit pas très bien. Et surtout, il n'y a pas d'univers. Et voilà, on parlait d'univers réflexif, prendre en compte l'évolution. On peut citer Olsen, on peut citer PNL. Voilà, on a dit... du mal de PNL ici,
pas moi, que. Mais bon.
Et là, on voit quand même d'un côté, il y a un continent, et à côté, il y a un petit machin d'un gamin un peu qui parle comme un vieux, alors qu'il a que 27 ans, 28 ans. Moi, je trouve que c'est assez terrible.
Bon, faites-vous votre avis par vous-même en l'écoutant. Chocolat de Romeo Elvis, sorti chez Barclay, à suivre dans la dispute Vampire Weekend, l'expo électro et le label Fashion Records.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la musique avec Father of the Bride, Vampire Weekend, sorti chez Columbia. On n'avait plus vraiment de nouvelles du groupe new-yorkais depuis leur précédent album en 2013, sacré par un Grammy Award de la musique alternative. C'est le 4e album, Vampire Weekend, qui digère sur près d'une heure quand même, là aussi, 18 morceaux. Le départ du multi-instrumentiste Rostam Batmangli, il ouvre une nouvelle page. Alors, on va en parler hein, peut-être. Plus lumineuse musicalement, toujours aussi sombre dans ses paroles. On va en parler ensemble, mais un premier rapide tour de table, résumé des impressions que vous allez développer, Olivier Lame.
Le trolling le plus doux qu'on peut imaginer.
Alors, traduction du verbe trolling,
je sais pas,
du mot trolling.
C'est pas rentré dans la Larousse aujourd'hui.
C'est pas rentré dans la Larousse, ça sera l'année prochaine.
Alors
Je sais pas.
On va demander aux Québécois.
On va leur demander, ouais. Bah non, mais un troll, c'est pas un mot anglais.
C'est vrai.
Le trollement, non ?
Le trollement, allez, allez, le trollement. Mathilde Serrel.
La pop est morte, vive la pop.
Pascaline Potvin.
Un probable disque d'été, mais un été très nuageux.
Bon, et comme certaines chansons sont courtes, dans cet album, on va en écouter 2 ce soir. Tout d'abord, Bambina. No time to discuss it. Christian heart.
silent sense for now, cha cha bambina. No signs from justice. Thunder and arena. I see you when the violence ends. For now, cha cha bambina. My Christian heart cannot withstand the thunder and arena. I see you when the violence ends. For now, cha cha bambina.
Avant un deuxième morceau de l'album de Vampire Weekend, Olivier Lame, pour le retour des conférences du professeur Lame. Et la conférence plutôt version TEDx, hein, version course, pour situer Vampire Weekend dans le paysage musical.
Groupe formé en 2006 par des alumni, des élèves de l'Université de Columbia à New York, notamment Ezra Koenig, qu'on vient d'entendre chanter, Rostam Batmanglij, donc qui est parti depuis, frère de Zal Batmanglij, qu'on connaît pour la série The OA, et Chris Bayo. On peut dire que c'est le groupe un des plus emblématiques du peak indie rock, on va dire de la première moitié des années 2000, avec notamment Animal Collective et d'autres. Et c'est un groupe qui est devenu un peu un phénomène avec un morceau qui s'appelait Cape Cod, Kwasa, et qui rêvait au high life dans la musique du Ghana et du Nigeria depuis une villa du bord de mer en Nouvelle-Angleterre. Donc exemple merveilleux d'appropriation culturelle, quelque chose qu'on ne pourrait plus du tout faire aujourd'hui. En l'occurrence, ils se permettent de le faire, mais on en parlera, je pense, tout à l'heure. Un groupe qui est apparu un peu du jour au lendemain et qui a évolué, je trouve, d'une manière assez étonnante. Aujourd'hui, j'ai envie de les comparer aux Beach Boys en fait, puisque comme plus ou moins à l'époque à partir de Pet Sounds, en fait, c'est devenu le groupe d'Ezra Koenig avec les autres qui viennent jouer un peu de basse, un peu de guitare et faire des chœurs. Mais enfin, là, on peut dire que c'est vraiment plus un groupe en fait. C'est vraiment Ezra Koenig et qui creuse un sillon.
Deuxième. Court morceau de cet album, il s'intitule Big Blue.
Big Blue, for once in my life I felt close to you. I was so overcome with emotion. When I was hurt and in need of affection. When I was tired and I couldn't go home. Then you offered protection. So am I learning my lesson? Or am I back on my own? Once in my life I felt close to you. I was so overcome with emotion. When I was hurt and in need of affection. When I was tired and I couldn't go home. Then you offered protection. So am I learning my lesson? Or am I back on my own? Big Blue, once in my life I felt close to you. I was so overcome with emotion. When I was hurt and in need of affection. When I was tired and I couldn't go home. Then you offered protection. So am I learning my lessons? Or am I back on my own? Big Blue, for once in my life I felt close to you. I was so overcome with emotion. When I was hurt and in need of affection. When I was tired and I couldn't go home. Then you offered protection. So am I learning my lesson? Or am I back on my own?
Ah, c'était donc le Big Blue. Autre morceau de ce nouvel album de Vampire Weekend. On est en train de leur dispute vraiment Mathilde Serrel.
Donc j'ajoute enfin de la musique. Ah oui.
C'est ce que vous avez dit pendant qu'on écoutait le morceau. Hein, donc.
C'est important quand même de temps en temps se dire que la musique existe et qu'il y a des gens qui continuent à faire des disques qui sont des disques de musique. C'est-à-dire, pour moi c'est une leçon de musique, c'est même un tableau de maître. Je trouve que c'est époustouflant dans ses moindres détails. Je trouve qu'il aurait pu être complètement piégé par la caricature de ce qu'on peut se dire de Vampire Weekend depuis ce Cape Cod. Quoi ça, pas du tout. Il se réapproprie ça. En plus, ça n'a pas un disque qui aurait pu sortir il y a 10 ans, ni 15 ans. Il y a cette collaboration donc avec un des leaders de The Internet qui va sortir son album solo bientôt. Il y a aussi un jeu avec les nouvelles productions, avec l'autotune, avec... Il y a en fait un travail un petit peu comme dans un tableau impressionniste de touches superposées. J'aime bien cette toile que m'inspire ce vers de Verlaine, je vais y aller. L'espoir, lui, comme un brin de paille dans une étable. Mais voyez, un brin de paille qui, lui, dans une étable. Vous voyez la délicatesse de la touche que ça peut être. C'est exactement ça. C'est aussi fin que ça sur chacun des titres. C'est un travail d'orfèvre et en plus d'intégration tellement intelligente effectivement, de musique d'Afrique, mais aussi d'Orient, d'Extrême-Orient. Il s'est aventuré dans d'autres discothèques qu'on avait moins entendu dans les disques de Vampire Weekend. Donc je trouve que c'est virtuose, singulier. C'est quelqu'un qui vous explique qu'on peut tout à fait se renouveler, que la pop peut soi-disant être morte sur le marché du disque, que pas du tout. En fait, c'est un grand continuum qui continue de se faire avec lui. Et c'est intemporel, comme pour moi un David Byrne, par exemple le leader des Talking Heads, ou Paul Simon qui avait très bien su aussi intégrer comme ça ses sonorités africaines dans la pop. Donc merci, c'est un disque qui pourrait écouter, je pense, les 20 prochaines années à venir sans sourciller. Enfin, en sourcillant de plaisir.
Pascaline Potvin, votre sentiment sur ce disque de Vampire Weekend?
Moi, à première écoute, j'ai eu le sentiment d'un disque qui repoussait les marqueurs de l'indie FM jusqu'à l'extrême, en fait. Je me suis un peu trouvée en terrain non aventureux. À la première écoute, je me dis, il y a quand même cette voix qui est bien, mais quand même assez inoffensive. Quand elle chante en duo avec Daniel Haïm, qui est l'une des sœurs du trio Haïm, qui a fait un énorme succès aux États-Unis. Là aussi, c'est quand même une voix très lisse. On est presque dans le domaine d'une Americana country un peu traditionnelle.
Elle gâche un peu tout, elle, quand même, cela dit, quand elle vient.
C'est très lisse, du coup. Et surtout, c'est ce que Vampire Weekend sait toujours faire de mieux depuis toujours, c'est que c'est l'usine à gimmicks. Il y en a partout. Des gimmicks tellement efficaces que sur certains refrains, il y a même plus besoin de paroles, en fait. Du coup, c'est ce genre de refrain sans paroles qu'on retrouve ensuite dans des pubs télé. C'est arrivé à Vampire Weekend avec certains de leurs titres. Et là, c'est drôle. Enfin, c'est, cette histoire de pub, c'est marrant parce que dès le premier titre, en fait, on retrouve ce sample d'une chorale mélanésienne qui avait été samplée par Hans Zimmer et qui, chez nous, qu'on a retrouvé dans une pub pour une compagnie d'assurance chez nous. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a un côté très, presque mainstream, comme ça, quand on l'écoute au début. Mais Vampire Weekend, ils ont toujours été bons pour moi sur un truc, c'est qu'ils savent jouer de l'économie, des silences et des vides. Ils savent faire une pop comme ça dans laquelle il y a des espèces de trous, des espèces d'interstices. Et là, dans cette ligne claire, il y a pas mal d'ombres qui s'insinuent, de choses qui trébuchent, de choses qui surprennent. Donc il y a tous ces effets de production intéressants qui sont assez subtils, dont Mathilde a bien parlé. Moi, il y a ce titre que j'adore, qu'on n'a pas écouté ce soir, qui s'appelle Sunflower.
Oui.
Avec Steve Lacy de The Internet, qui est juste... Enfin. Il arrive quand même à me mettre dans la tête une ritournelle de prog rock. Faut y aller. Et de rendre ça rigolo, ludique. Prog rock ludique. Franchement, faut y aller. Moi, je dis bravo. Et surtout les paroles. Enfin, on écoute les paroles. C'est un disque très gai, très solaire, très estival. Les paroles ne parlent que de rupture.
Ouais.
My Mistake aussi, qui est genre une petite comptine jazzy composée avec Ludwig Göransson, compositeur de musique de film oscarisé pour Black Panther. On a l'impression d'être dans La La Land alors qu'en fait ça parle d'une faute, de culpabilité amoureuse. Un autre titre comme ça, This Life, très gay, on va danser dessus tout l'été, ça parle d'adultère. Donc ça c'est quand même pas mal et je pense que ça se sent au fond du disque. Et donc du coup voilà, je trouve que c'est un disque finalement, plus on l'écoute, qui se révèle extrêmement intéressant de part comme ça, ces touches très subtil, très intéressant dans la production. Et parce que c'est un disque nécrosé, c'est un disque nuageux qui alterne comme ça, ombre et lumière, on sait jamais sur quel pied danser. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit en ce moment.
Olivier Lam.
Ouais, c'est un disque très intéressant parce qu'il rappelle qu'un choix artistique, c'est très politique. De la même manière que on vit sa vie, c'est politique. On sait très fort en ce moment, chacun vit dans sa bulle et est accusé de vivre dans sa bulle. Nos actions qui sont plus des gouttes d'eau dans la mer, mais qui font le torrent d'une action néfaste de l'homme, etc. Et je trouve que c'est un disque qui nous le rappelle en permanence d'une manière très très fine, parce que voilà, je parlais de trolling, donc de trollement, de trollage tout à l'heure.
On va l'inventer,
il le fait quasiment à chaque morceau d'une manière très très fine, très subtile. On parlait d'influence musicale, on peut parler de voilà des choses que qui sont samplées dans le disque. Voilà l'extrait de la bande originale de la Ligne Rouge dans Zimmer, qui est quasiment présenté comme un, j'ai envie de dire une provocation par rapport à ce qu'on a longtemps reproché à Vampire Weekend, savoir donc faire de l'appropriation culturelle et être, comme il dit, unbearably white, insupportablement blanc. C'est très drôle parce qu'il y a donc cette chanson qui s'appelle Unbearably White, qui est une chanson d'amour. Il parle, il regarde les sommets des montagnes couverts de neige, etc. Ça rappelle que tout va mal. Et c'était le titre d'un article à charge sur le pourquoi l'indie rock est si insupportablement blanc. Et il le retourne de la même manière, ce morceau qui s'appelle Rich Man, qui parle des affres, de la richesse, etc., en samplant de la musique, ce musicien de Sierra Leone qui s'appelle Essie Rogie, qui est une superstar, et qui met en boucle qu'ils opposent à des cordes baroques, etc. Et cette manière aussi de mélanger le politique, il y a ce morceau qui s'appelle Married in a Gold Rush, c'est pas vraiment traduisible. Qui commence en disant quelque chose se passe dans le pays, c'est la faute du gouvernement, on s'est marié trop vite, ce rush, cette ruée, on n'arrivera jamais à la tenir sur le long cours. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement subtil, y compris dans les références 50s. Moi, j'ai pensé à Dean Martin qui duette avec Doris Day, et y compris dans l'invitation de Daniel Haim avec cette voix. Effectivement, on a l'impression que c'est effectivement une station country FM qui déboule dans le disque. Et je pense que c'est une forme vraiment une manière de manipuler des choses très disparates, etc., pour nous rappeler que tout ça c'est que de la musique, et en même temps tout ça est très politique, et jusqu'à interroger sa propre légitimité dans ce morceau qui s'appelle 2021. Est-ce qu'on sera encore légitime en 2021, alors qu'il sait pertinemment qu'en 2019 c'est un groupe qui n'est plus au centre, qui est un groupe qui est déjà vu comme considéré comme d'un autre temps. Et je trouve que sa manière d'embrasser tout ça, c'est extrêmement talentueux, et moi c'est un disque que j'aime énormément pour ça, et c'est un disque que j'ai pas, effectivement, dans lequel je suis pas rentré à la première écoute. Il m'a fallu des semaines,
il faut un certain temps. J'ai pas eu encore assez de temps, je commence à entrer dedans. Non, mais je le dis pour nos auditrices et auditeurs, ils se donnent pas, en tout cas, s'il peut se donner dans un premier temps, comme vous le disiez tout à l'heure justement, Pascaline Potvin, il est beaucoup plus complexe et riche qu'il n'en a l'air. Mathilde Serrel.
Oui, c'est vrai que c'est aussi un très bon metteur en scène, metteur en son. C'est vrai que la façon dont on utilise les personnages, les acteurs au cinéma, ce qu'on leur propose de faire à contre-emploi, c'est vrai que cette Danielle Haim, un peu lourdingue, un peu Dolly Partonienne, c'est une figure aussi, il joue de son kitsch, enfin il est dupe de rien, il me semble. Plus on l'écoute, plus on sent que tout ça est extrêmement maîtrisé. Et quant à Steve Lacy, dont on parlait de The Internet, ça aurait pu être une sorte de... moi j'adore ces belles nappes lascive de R&B de The Internet, mais là pas du tout, puis c'est même presque onomatopesque, texturé, c'est presque lettriste, quoi, comme expérience. Et puis il y a aussi des grands temples de la pop qui s'ouvrent dans ce disque, notamment un groupe de pop, si vous l'avez jamais écouté, que je vous conseille, qui s'appelle The Left Bank, avec Pretty Ballerina, qui à mon avis est aussi quelque chose qui l'a accompagné. Donc je trouve ça très très beau, en fait, de voir ces strates de référence. Et pour reparler du politique, la dernière chanson, c'est Jérusalem New York Berlin, il dit « Let them win the battle, don't let them start again that genocide of feeling that beats in every heart ». Donc en gros, laissez-les gagner cette bataille, ne les laissez pas, au contraire, enfin en revanche, tuer ce génocide de sentiments qu'on a chacun dans nos cœurs. Et c'est cette espèce de singularité d'émotion qu'on a chacun dans de nous. Il nous dit « Allez vous écouter, en fait, individuellement, plutôt, si vous voulez, de suivre la meute ».
Pascaline Potvin, pour terminer.
Non, moi, après avoir mis beaucoup de temps pour rentrer dans ce disque, il se trouve que maintenant, j'ai les chansons en tête en permanence. Enfin, je leur écoutais encore aujourd'hui et je chantais, vraiment. Et notamment, ce titre Sunflower, Big Blue, qu'on a entendu.
Qui promet donc cet été nuageux, donc, parce que le soleil brille quand on écoute, mais moins quand on fait attention aux paroles.
Moi qui suis vraiment très attachée à l'art de la mélodie, même quand c'est du gimmick, quand c'est bien fait, c'est super. Ah, oui. Là, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais elles sont quand même très très bien faites. Et voilà, c'est rare aujourd'hui de trouver des mélodies de talent, vraiment. Et Ezra Koenig en fait partie.
Voilà pourquoi il faut acheter, se procurer, écouter ce disque de Vampire Weekend qui s'appelle Father of the Bride et qui est sorti chez Columbia.
Mmh.
C'est l'heure du coup de cœur d'Olivier Lam. Et ce soir, il est pour une anthologie du label Fashion Records. Le titre, c'est Style and Fashion. C'est pas mal. Chez Soul's Jazz Records. Avant d'en écouter un extrait, quelques explications d'Olivier Lam.
Oui, c'est une compilation donc d'un label reggae londonien. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, je suis quelqu'un qui a longtemps pensé détester le reggae. Il se trouve que je suis arrivé par le biais de l'Angleterre, parce que c'était la musique qui était dans toute la musique électronique que j'aimais très profondément. Et donc là, c'est une compilation que qui couvre 20 ans d'activité vraiment assez explosive et qui couvre en fait tous les sous-genres du reggae anglais. C'est une compilation que je conseillerais vraiment en priorité d'écouter à des gens qui pensent détester le reggae et le dancehall et le digital et la jungle. Voilà, parce que je pense qu'on aura du mal à trouver plus de vie dans une compilation que dans celle-ci.
Bon, alors le mieux c'est d'en écouter un extrait alors. Très bien.
Gentlemen, I leave me back on the street again, man. See this here, y'all pure madness and chaos me I deal with, man, because I get wicked and murderous upon them in our ram. Watch out. When I was young, my mama always told me that I would go to be a big-time celebrity in the dance and inside the party. All of the girl, them love the Gentlemen, I leave me style it. Gentlemen, I leave it. Just a come. Like a nuclear bomb. Wicked me get a wicked pandem. Wicked me get a wicked pandem.
Alors, Olivier Lam, vous nous promettez du reggae. Et qu'est-ce qu'on entend?
Du ragga, mais le reggae, c'est la même chose. Non, mais il y a un truc qui est très intéressant. Donc là, on vient d'écouter un morceau donc, de General Levy, qui était la superstar du ragga,
ah, oui.
Avec un duo jungle, comme on disait, Hard and Pure. C'est intéressant parce que la vague ragga jungle, on pense qu'elle est elle est arrivée très tôt, en fait, dans l'histoire de la jungle. En fait, c'est faux. Elle est arrivée en deuxième, après quelque chose de beaucoup plus techno et futuriste. Une excellente compilation également chez Soul Jazz qui s'appelle Rumble in the Jungle, d'après le nom d'une référence de Fashion Records. Mais ce qui est très étonnant, c'est que il y avait un échange de bons procédés en fait entre deux générations. Les deux sont sur le même label, c'est-à-dire qu'il y a la première génération qui est principalement du dancehall, donc du reggae électronique, etc., fait par des britanniques, donc qui parlaient d'une réalité, on va dire, urbaine, politique, purement britannique, ce qui était quand même quelque chose d'assez nouveau. Et ensuite, leurs enfants, qui eux faisaient de la jungle et qui ont commencé à sampler les voix des toasters des disques de la première décennie, on va dire, du label. De manière très intelligente, les deux fondateurs du label, Chris Lane et John McGillivray, en fait, avaient invité dans un échange de bons procédés, ces jeunes producteurs, à leur donner leurs morceaux en l'échange de l'utilisation des voix. Donc il y a un truc vraiment, il y a une continuité géniale. Les Anglais parlent de hardcore continuum, mais il y a vraiment si on veut comprendre même la techno anglaise, en fait tout est là déjà.
Tout est là.
Voilà.
Procurez-vous cette anthologie du label Fashion Records. Ça s'appelle Style and Fashion et c'est chez Soul Jazz Records.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le dernier sujet à l'affiche de cette dispute musicale ce soir, c'est une exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk. Une exposition à voir la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août. On l'a déjà un peu évoqué dans un petit salon de Lucine Comeau consacré à comment exposer la musique. On va développer ce soir sur cette exposition-là avec d'abord un résumé de votre avis critique à développer ensuite, Mathilde Serrel.
Alors c'est difficile en effet d'exposer la musique électronique, de saisir l'art à l'état gazeux. Et comment on va pas donner le sentiment aussi que la fête est finie avec la musique électronique? Ça faisait partie, à mon avis, des enjeux de l'exposition. Sans parler de ce parcours un peu pédago-historique
que
dans les expressions musicales qui peut être assez pénible, ou à l'inverse, un truc gadget et fétichiste qui a peu d'intérêt. Là, le commissaire d'exposition, donc Jean-Yves Leloup, il a imaginé une formule hybride. L'immersion dans l'exposition, c'est pas un moyen de mettre en scène, comme ça se fait beaucoup en ce moment dans les musées, mais en fait, c'est un principe natif, en fait, qui découle tout simplement de la musique électronique. Et on pénètre et on déambule dans cet espace volontairement nocturne, un peu comme dans une fête. Alors, ça dépend, il y aura du monde ou pas, quand vous irez, je ne sais pas. Moi, il y avait assez peu de monde, donc on va dire que c'était plutôt une fin de partie. Des échafaudages qui rappellent les décors industriels qui ont accompagné les fêtes techno ou les raves. On écoute des playlists historiques de Laurent Garnier qui dressent le portrait par ville de la house et de l'électro, Détroit, Chicago, New York. Je vais pas vous faire toute la liste, mais c'est cette sensation de partage qui était importante, qu'il y a un ADN communautaire dans la musique électronique et on le ressent plutôt que d'être chacun avec son casque tout seul. On peut écouter des choses à un moment si on veut s'arrêter, en savoir plus, mais on baigne dans la même atmosphère. Et le principe aussi, vous le découvrirez dès que vous entrez dans l'exposition, il y a des photos grand format d'Andreas Gursky, parce que l'idée c'est que la révolution électronique est un manifeste esthétique qui irrigue largement toutes les formes d'art et de vie, hier et aujourd'hui. Donc ça se traduit par un mélange de musique, de machines, de création plastique, de clips, de danse, de théâtre et de photos. On suit l'évolution de la musique et elle se raconte par sous-espaces, en différents abords, comme dans un hangar ou dans les alcôves d'un club. Et c'est une exposition qui est profondément dans la circulation, qui évite les textes et les temps de pause. Vous voyez, la station un peu les uns derrière les autres, à lire des textes. Donc pour moi, il y a une forme d'horizontalité du savoir qui correspond aussi totalement au sujet. Et bien sûr, le savoir est là. Donc on pourra se faire sa culture électronique, avoir des repères, les premières vibrations au thérémine dans les années 20-30 avec des instrumentistes comme Clara Rockmore, le premier concert de bruit de Pierre Schaeffer en 1950, la découverte dans les années 70 par Giorgio Moroder du Moog Modular 3P. Et en fait, il se dit, c'est le son du futur. La musique électronique va sortir en fait de sa gamme expérimentale et avant-gardiste pour devenir une musique dansante. Voilà, ensuite vous aurez par exemple comme point de repère le Berghain à Berlin en 2004 et la tournée Alive des Daft Punk en 2007 qui vont modéliser en fait la performance électronique scénique, parce que sinon c'est vrai que des gens derrière des machines, c'est pas toujours passionnant à voir. Donc ensuite il n'y a plus qu'à dérouler le fil esthétique. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai peur d'être trop longue, mais ça va passer par Christian Rizzo qui est un excellent metteur en scène chorégraphe, Gisèle Vienne, le collectif 1024 Architecture ou Kindergarten à qui vraiment je tire mon chapeau. Ils font des costumes de drag queen, mais déviants. Ça, c'est des costumes d'enfants déviants. Donc ça, je trouve ça assez transgressif. Ça m'a énormément plu. Et par ailleurs, il y a aussi Kiddy Smile qui est cité. C'est-à-dire que cette utopie politique où chacun peut exprimer sa différence, qui était un petit peu l'hymne house, ben on le retrouve aussi jusque dans Kiddy Smile et dans ses danseurs de voguing, et cette esthétique un peu Kaira Homo.
Alors, pour les auditrices et auditeurs qui ont suivi, hein, c'est pas le résumé de la vie critique de Mathilde Serrel là, qu'elle vient d'exposer, parce qu'elle n'écoute pas mes questions. Elle a devancé la suivante sur le parcours de l'exposition, vous l'aurez bien compris. We'll be right back. propose bien d'écouter tout cet album de Kraftwerk qui date en 1975. Mais après cette belle visite hein, par Mathilde Serrel, on va peut-être faire le tour de chauffe maintenant alors. Hein. Un résumé de la vie que vous allez développer, Pascaline Potvin, sur cette exposition.
Moi, c'est une expo gruyère, c'est de très bon goût, mais il y a plein de trous.
Olivier Lam.
Une balade à tâtons.
Voilà, c'est pas mal. Mathilde, vous faites pas la visite là.
Non. Le son du futur est devenu l'art du présent. Voilà.
Pas mal aussi. On repart avec qui alors? Avec le gruyère, tiens, parce qu'il y a une pot de vin.
Non, c'était la fin de ma métaphore culinaire.
On n'est pas à l'abri, hein. Il y a un dessert.
Il y avait le chocolat, je me suis dit.
Enfin, on va passer aux entrées après.
Là, mais voilà. Ouais. Non, effectivement, le parti pris de cette
une
exposition.
Salade niçoise, cette exposition.
Non, on va pas aller jusque-là quand même. Non, le parti pris de cette expo, c'était effectivement une exposition d'esthète. Et là-dessus, c'est réussi parce qu'il y a plein de belles choses et des choses rares, des synthétiseurs rares et magnifiques. Il y a beaucoup de photos, il y a des flyers, il y a des pochettes de disques superbes. Mathilde en a très bien parlé. Des installations qui sont belles, elles aussi, et ludiques, à l'exception de celle de Daft Punk qui, je trouve, qui est assez moche et qui en plus casse les oreilles complètement. Laurent Garnier qui a fait une bande originale qui immerge comme dans laquelle on est immergé pendant toute l'expo et qui est très bien, qui est très ludique, c'est un peu par période, par ville et tout. Et franchement, elle est super. Moi, je sais que j'ai plein de gens qui me l'ont dit aussi. C'est un truc qui a été retenu. On mise tellement sur l'esthétique, effectivement, on se paie le luxe de perdre les visiteurs dans une scénographie qui n'est pas quadrillée, un parcours qui n'est pas tracé. L'idée, c'est de s'immerger donc dans tout ça. Ça fonctionne jusqu'à un certain point et on le voit. Moi, j'y suis allée un week-end, il y avait un peu de monde. La seule chose chronologique dans l'expo, c'est le début où on suit comme ça le parcours de tout, du thérémine aux dernières boîtes à rythme logiciel, en passant par les synthés modulaires et tout. Et là, les gens font la queue. Ils ont quand même besoin. J'ai l'impression d'être guidé, d'être pris par la main. Et je dis pas ça de manière négative. Besoin d'un peu de didactisme, en fait. Et c'est peut-être que ce qui manque à cette exposition, un autre exemple de ce besoin de didactisme et de voir un peu comment ça marche, c'est les vidéos de Jeff Mills, The Exhibitionist, qu'il avait faites en 2004, dans lequel on le voit sur un écran blanc ou noir, juste manipuler ses platines. Et c'est virtuose, c'est hallucinant. Et là, il y a une foule, mais même sans le son, qui reste pour le regarder parce qu'on voit comment ça marche, c'est quoi les tripes, c'est quoi la machine, c'est quoi les coulisses de cette musique comme ça, si gazeuse, comme le disait très bien Mathilde. Et je pense que c'est ce qui manque un peu à cette exposition. C'est très beau, mais ça manque de didactisme. C'est super de nous montrer des synthés de collection, mais quand la plupart, on sait pas quels sons ils ont. Moi, je reste sur ma faim. Par exemple, il y a des ondes Martenot. Nulle part, on entend à quoi ça ressemble. Les pochettes de disques prospectives 21e siècle qui sont magnifiques, je crois pas qu'on entende à quoi ressemble la musique. Une fois qu'on a vu les statues de Brian Eno et de George Moroder qui sont magnifiques aussi, qu'on aimerait bien entendre le son. Donc voilà, c'est en ça que je dis qu'il y a des trous et qu'elle est lacunaire. C'est que on a besoin parfois de didactisme, de savoir, on voit des choses qui sont magnifiques, on sent des impressions, mais qu'on nous fasse entendre et comprendre plus de choses. Voilà.
Olivier Lam, à tâtons.
C'est drôle parce qu'on en parlait indirectement en parlant des expositions musicales en général. Et je disais exactement ces deux choses, à savoir, on a envie, moi j'ai presque envie d'un parcours didactique dans lequel à la limite je peux essayer de déceler soit des trous, et voilà. Je disais qu'il y avait un problème de dissonance par rapport à la manière dont on découvre la musique en principe, c'est-à-dire par l'écoute. Moi j'ai envie de revenir sur le terme électro. Je pense qu'il a été imposé à Jean-Yves Leloup parce que c'est le terme, on va dire, le plus générique. Et il faut qu'on est le seul pays au monde où le mot électro sert à désigner, on va dire, la musique électronique en général, puisque on sait que le mot électro vient de, on va dire, de cette émergence électronique du hip-hop naissant depuis Afrika Bambaataa qui samplait Kraftwerk jusqu'aux prémices de la techno avec Cybotron à Détroit, etc. Donc l'électro, c'est des voix de robots, et c'est des rythmes de TR-808 et voilà. Et chez nous, on peut parler musique électronique, mais en vérité, je pense que ça recèle en fait une sorte de roman officiel de la musique électronique, qui en gros comprendrait les pionniers, en gros deux pionniers, Pierre-Henri et Jean-Michel Jarre, et ensuite là où c'est la techno. Et évidemment, ce roman-là est complètement faux. On le sait de plus en plus. Il y a énormément de rééditions de musique électronique française, notamment. On sait que les liens entre la musique de danse électronique et la musique de recherche, voilà, notamment au GRM, etc., à l'IRCAM, etc., sont des choses beaucoup plus complexes. Qu'il y a eu le disco, qu'il y a eu la new wave, qu'il y a eu... un milliard de choses, que, y compris la musique de danse en France, la techno, là, c'est des histoires complexes, etc. Tout ça n'est pas dans l'exposition, parce que je pense qu'il y avait, voilà, il fallait faire synthèse de quelque chose. Et moi, donc, à la limite, même le j'ai envie de critiquer, parce que, à un moment, il y a un peu de, puisqu'il y a un début de chronologie, il y a un début de, qui nous est raconté. Et moi, cette histoire-là, elle, je sais qu'elle est fausse, et je pense que les gens qui ont fait l'exposition savent aussi qu'elle est fausse. De la même manière, le jour de l'exposition, de la visite de presse, il y a eu un discours qui a été donné, dans lequel on nous parlait de, voilà, montrer comment les musiques house et techno sont devenues artistiques au sens large. Comme si, à l'époque des rêves, à l'époque du Paradise Garage, elles ne l'étaient pas. Et moi, il y a aussi ce truc de, voilà, on est à un moment très particulier de l'histoire des musiques électroniques où effectivement elles n'ont jamais été aussi fortes. Elles sont peut-être un peu en perte de vitesse. En tout cas, elles sont partout. Elles sont partout. C'est devenu vraiment le son de la fête. Et où il faut, c'est comme s'il faudrait absolument, il fallait absolument, trouver une sorte de légitimité qui manquerait aux musiques électroniques. Il me semble que cette légitimité, elle est, enfin, je veux dire, elle est avérée pour tout le monde, les gens qui connaissent la musique électronique comme ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà, il y a énormément de très très belles choses dans cette exposition, mais voilà, je voulais quand même parler de ce qui moi me pose quand même problème, parce que c'est, voilà, c'est une musique qui nous tient à cœur.
Mathilde Sérène.
Moi, je trouve qu'au contraire, c'est la première fois qu'on dépasse un peu ce problème de légitimation de la musique électronique, qui a été le grand combat de Laurent Garnier.
Ouais, elle est au musée, donc ça y est.
Elle est au musée.
Pour qu'elle soit au musée, moi, je suis comme Olivier Lame. Pour qu'elle soit au musée,
vous avez l'impression qu'on
la refaçonne.
Ouais. Moi, je crois qu'on la refaçonne à partir d'un angle qui est très simple, qui est qu'il y a dans la pratique de la musique électronique, dans la façon d'expérimenter, de combiner, de moduler cette espèce de figure de sémionaute que convoque Jean-Yves Leloup quand il parle de l'exposition. Moi j'y crois, c'est-à-dire cette figure de l'artiste moderne qui est hérité du DJ et qui est un artiste curateur, mélangeur, etc. Et moi je trouve
que années 90, hein, ouais, comme, c'est vraiment très dépassé, 1998, ouais. Quoi. Moi j'ai l'impression.
Enfin, mais en même temps,
on a Christian Marclay qui est là, évidemment,
ça montre ça.
Non mais pour un Christian Marclay, réel génie.
Ouais.
En même temps, pourquoi ne pas discuter assez creux avec cette théorie-là.
En même temps, on voit bien que ça continue à être le principe créatif de beaucoup de musiciens électroniques et pas forcément. En effet, c'est-à-dire que je pense que là où vous soulevez le problème qu'il y a, c'est que l'art contemporain aujourd'hui n'est plus inspiré par ce modèle du sémionaute ou peut-être du compositeur électronique et passe à d'autres modulations. Donc faire toute la lecture de l'art contemporain par la musique électronique, ça pose un problème. Mais en revanche, d'avoir montré que cette figure-là, elle va devenir une figure de l'art moderne qui va nous accompagner peut-être jusqu'au seuil des années 2000. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la musique électronique, elle change, elle devient aussi l'électronique dance music. Donc elle a aussi cette bascule à partir des années 2000. Donc au fond, je pense que le parcours, il est assez bien raconté sur le plan politique et esthétique jusqu'au seuil des années 2000 et il va chercher aujourd'hui où est l'utopie.
Il aurait fallu beaucoup plus de temps que cela pour parler de cette exposition avec vous parce qu'on a à peine abordé les choses. C'est jusqu'au 11 août. Je ne sais pas si on ne peut pas faire une prochaine séance quand même de la dispute parce que là vraiment, j'aimerais bien remettre des choses
une
sur le tapis.
Dans la machine.
Une pièce dans la machine, ce n'est pas possible pour ce soir, mais ensuite. C'était très riche. Mais comme ça, de la frustration, naît le désir. Electro de Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin, qui nous rappelle d'abord la question d'hier au soir, avant de nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était quel est le nom de la pièce marquant la première collaboration artistique d'Olivier Cadio et Ludovic Lagarde, et la réponse était Sœurs et Frères.
Ce soir, des DVD à gagner du film Le Grand Bal de Laetitia Carton, c'est distribué par Pyramide. La question, Joséphine.
À quel auteur de bande dessinée Laetitia Carton a-t-elle consacré son premier long métrage documentaire?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Pascal Baudin. Réalisation Alexandre Fougeron. Demain, une dispute consacrée aux arts plastiques, bien sûr, à 19h, avec Sandra Dancourali, Florian Guettet, Frédéric Bonnet, une spéciale Lille 3000 Eldorado, avec deux gros plans, l'exposition Eldorama au Tripostane, l'exposition La Déesse Verte à la gare Saint-Sauveur et puis les coups de cœur de nos critiques.